Okapi Action, du lundi au vendredi, de 9h à 2h heure de Kinshasa, avec Nikon Gaka, et jeudi Nkashama.
Mama wewe autoko bota mwana nae uzaiki tofanji na kati ya lupangu toki na kionono mwana zile la makazi toki kotara ya toko miwana tomuni mwana zile la makimbeze vime tutuni mama ni wana leko pinyo ye paske haida kinga mbongo ndako.
En République démocratique du Congo, de nombreux enfants sont victimes de violences sous toutes ses formes. Celles-ci peuvent provenir soit des personnes adultes, mais parfois aussi des enfants entre eux. Dans le pire des cas, ces violences prennent des tournures pouvant entraîner des conséquences graves vis-à-vis de l'enfant. Comment protéger l'enfant face à ces violences et que dit la loi lorsqu'elle se transforme en infraction? Nous en parlons aujourd'hui dans le cadre de notre chronique consacrée à Avocats sans frontières avec Maître Dominique Camoindou. Nous espérons avoir entre-temps vos réactions. Réagissez sur ce dossier en envoyant vos SMS au 081 070 2050. À Ouvira, nous sommes là dans le sud Kivu, les entrepôts et magasins du PAM au port de Kalundu sont depuis un certain temps la cible des personnes mal intentionnées qui cherchent à piller les vivres. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi aujourd'hui bon nombre de gens veulent piller les vivres du PAM? Nous faisons le point avec Fiston Goma qui est justement en ligne. Fiston, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui cherchent à piller les entrepôts du PAM?
Oui, Nicole, selon le chef de l'extension de l'ISDER, l'Institut supérieur de développement rural, qui a conduit la délégation des étudiants auprès des autorités locales et du PAM, en fait, l'augmentation du stockage de vivres du PAM au port de Kalundu, cela inquiète les étudiants, aussi la population qui considère que, et qui soupçonne que ce serait l'indice, en fait, de la reprise de la guerre dans cette partie du pays. Nous allons avoir beaucoup plus de détails dans le magazine que nous allons réaliser ensemble.
Oui, puisque nous aurons comme invité dans ce studio Pierre Honorat, directeur national de la logistique au programme alimentaire mondial. Il est bien placé, hein, pour nous dire concrètement ce qui se passe et informer ainsi le public à Ouvira. Nous espérons avoir vos réactions, hein, auditeurs de Radio Capi, vous qui nous suivez à Ouvira, n'hésitez pas, parlez-nous de ce problème, réagissez au 081 070 2050 et écrivez-nous également si vous avez l'internet chez vous à action@radiocapi.net. Les autres sujets développés aujourd'hui dans Capi Action avec vous, jeudi Kassama.
Nous serons également à Kindu pour parler de l'hôpital général de Kindu qui est doté de nouveaux matériels cliniques. Et nous serons également à Butembo pour parler de la grève des agents non mécanisés à la Direction générale des impôts, centre de Butembo et de Beni. Et nous reviendrons à Kinshasa pour parler d'une maladie, il s'agit des oreillons, comment éviter cette maladie et comment les soigner. Nous terminerons par Matadi, où nous allons parler de l'école EP1 et 2 d'Nkamba, d'Mbantakamba réhabilité. Alors, vous pouvez déjà réagir, appelez-nous au 081-890-6394. Vous pouvez nous envoyer vos SMS au 081-070-2050. Si vous suivez cette émission sur Internet, participez déjà, écrivez-nous à l'adresse action@radiocapi.net.
Voilà qui est bien dit. Retenez qu'à la mise en onde, il y a Jean-Noël Mokondo, à la réalisation Rivion César. Cette émission est coordonnée par Nathalie Moteba. Bon début de semaine à tous ceux-là qui nous suivent à travers Okapi.
Sur 103,5.
En République démocratique du Congo, de nombreux enfants sont victimes de violences sous toutes ses formes. Nous en parlons aujourd'hui dans Capi Action, puisque nous savons que lorsqu'on parle de violence, nous avons deux aspects dans ce sujet. D'une part, les violences commises sur l'enfant par l'adulte, et d'autre part, entre les enfants. Parlons du premier cas, quand l'enfant subit les violences par l'adulte. Chez Lila Mbalivoto, vous vous êtes penché justement sur ce problème. Qu'en est-il exactement?
Vous savez, Nicole, la violence à l'égard des enfants congolais peut deux fois prendre de multiples formes. On peut distinguer ici plusieurs types de violences subies par les enfants suivant l'environnement où ils se trouvent. Les violences faites en famille, en communauté, à l'école ou dans d'autres institutions. Et ces violences sont souvent et parfois même accompagnées des coups et blessures, des châtiments corporels, des travaux domestiques excessifs, parfois aussi des travaux forcés des enfants. Et ce qu'on peut retenir, c'est que l'enfant congolais n'est pas du tout protégé face aux violences. Et chaque jour, il subit des violences, pas seulement de la part des adultes, comme vous venez de le dire, mais parfois aussi, il arrive que cela provienne entre eux, les enfants. Et très souvent, ces violences prennent d'autres tournures, quand même un fait banal qu'on peut négliger, qu'on trouve que, pas d'importance. Mais lorsque les niveaux de vigilance s'estampent, ces faits souvent ont des conséquences graves sur l'enfant.
Mm-hmm. Parlons justement du travail de l'enfant. Vous savez que demain, jeudi, on célèbre la journée contre le travail des enfants. Il y a de nombreux enfants aujourd'hui qui travaillent de plus en plus ici en République démocratique du Congo. Dernièrement, nous avons eu à faire le point avec Kalemie. Nous avons été également ailleurs au Congo où bon nombre d'enfants travaillent aujourd'hui dans les mines, ce qui ne devrait pas se faire. C'est une forme de violence. Nous en parlons parce que c'est un problème. Réagissez entre-temps au 081-070-2050. Informez-nous. Quelles sont ces violences faites vis-à-vis de l'enfant? Vous êtes mieux placé que nous pour en parler. Alors, pour évoluer sur la question, Jolie, vous venez de dire que l'enfant subit des violences suivant l'environnement où il se trouve. En famille, par exemple, comment un enfant peut-il être violenté?
Oui, il y a plusieurs exemples pour expliquer les violences faites à l'enfant en famille. Et pour bien illustrer ce passage, nous allons vous proposer ce témoignage. L'histoire s'est passée ici à Kinshasa. Une petite fille d'environ 10 ans a été blessée par sa mère la semaine dernière dans la région génitale. Là, vous comprenez, et l'incident a eu lieu au quartier Banounou dans la commune de Matete. Selon la victime, elle a été accusée d'avoir volé 500 francs congolais de sa mère. Et pour l'amener à avouer le fait, celle-ci l'a blessée dans sa région génitale. Et c'est le cri de l'enfant qui a alerté les voisins et qui ont vite accouru dans la maison. Ils ont amené la fille dans un centre hospitalier de la place où elle s'y trouve présentement. Et la voisine de la victime signale que l'enfant était l'objet d'autres mauvais traitements de la part de sa mère. Elle explique ici.
Voilà le témoignage d'une voisine. Elle a vécu justement le drame. Elle a vu que cette femme avait torturé son propre enfant, qu'elle avait blessé au niveau de la région génitale, vous l'avez dit, Jolie Laure. Et elle l'a confirmé, il y a bon nombre d'enfants aujourd'hui qui sont torturés. Demain, nous rappelons, le monde célèbre la journée contre le travail des enfants. C'est vrai parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont violentés, mais il y a aussi d'autres types de violences. Par exemple, ceux qu'on vient de suivre actuellement, le témoignage qu'on a suivi. Nous vous invitons, auditeurs de Radio Capi, à réagir au 081 070 2050. Parlez-nous-en, témoignez, parce qu'aujourd'hui, nous faisons le point. Le droit existe et quelles sont les infractions qui sont commises et comment on peut punir ce type d'infraction. Nous aurons des réponses avec Maître Dominique Kamwandu. Mais vous, puisque vous avez eu à fouiller dans le dossier, que dit la loi quand ces violences se transforment en infractions?
Selon Madame Ojinga, présente au tribunal de grande instance de Matete, c'est Kinshasa, l'infraction est punissable de la même manière que quand elle est commise sur un adulte, et surtout quand il y a des coups et blessures, parce que pour cet enfant, on peut dire qu'il y a coups et blessures. Et il n'y a pas eu de sanctions comme telle, mais elle se dit que comme les violences viennent de la mère, la circonstance devient aggravante parce que c'est elle qui est censée d'abord protéger son enfant. On l'écoute.
Oui, mais vous savez, une infraction reste une infraction, hein. Surtout quand c'est la mère, ça devient une circonstance aggravante. Parce que la mère est censée protéger son enfant. Mais l'infraction, le juge devra sanctionner la maman comme toute autre personne, avec la circonstance aggravante que c'est sa propre mère qui devait la protéger. Mais l'infraction reste établie. Si le juge estime ou constate qu'il y a l'infraction bel et bien établie, mais cette maman fera la prison. Et si c'est des coups et blessures aggravées ou coups et blessures et entraîner la mort, mais pour le cas de l'enfant, vous savez, il faut que les juges puissent qualifier l'infraction. Il faut que les juges puissent instruire et puissent rassembler les éléments constitutifs par rapport à une infraction. Alors, quelle est l'infraction que cette maman a commise? Nous disons, apparemment, c'est le coup et blessure. Parce que maintenant, il faut découvrir quelle est l'intention. C'est là où se trouve le problème. L'intention que la maman avait en posant ces actes-là. Si c'était pour assouvir ses instincts sexuels, cette maman peut être poursuivie pour viol, pour avoir volé 500 fois. Bah, alors ça, c'est une action punitive qu'elle a faite envers son enfant. Voilà, ce sont des coups et blessures. Hein.
Voilà, une mère qui torture son enfant parce que cette petite fille lui a volé 500 francs. Elle en arrive à lui faire subir des violences au niveau de l'appareil génital. Elle est condamnable hein, devant la loi. Maître Dominique Kamandou a des précisions là-dessus. Cette femme doit être condamnée pour combien d'années en prison? On le saura tout à l'heure. Il y a peut-être des témoignages que vous avez, que vous souhaitez partager avec nous. N'hésitez pas, 081 070 2050. Alors tout à l'heure, je vous avais évoqué que les violences faites à l'enfant peuvent des fois provenir des enfants eux-mêmes, hein, je l'ai là.
Oui, entre les enfants, les violences peuvent aussi provenir sous plusieurs formes. Prenons l'exemple de deux enfants qui se battent. Vous savez, l'un est naturellement beaucoup plus fort que l'autre et c'est un acte de violence, c'est condamnable aussi. Il y a beaucoup d'autres exemples qui vont aussi dans ce sens-là. En Bougimaï, par exemple, il y a un jeune garçon de 12 ans qui a donné la mort à sa collègue de classe de 8 ans après lui avoir porté un coup à la tête. Et le drame s'est passé le lundi dernier à Monnaie du Tour, Cassé Oriental. C'était au moment où l'enseignant donnait cours et cet incident a créé une panique suivie de l'arrêt des cours dans cette école. Ici, je vous propose de suivre les explications de notre confrère Billy Yvon Tsutumba.
Au-delà de la panique provoquée par ce drame, une polémique est née quant à l'origine exacte de la mort de la jeune élève. Pour le directeur de l'école, la fillette est décédée suite à une maladie et dément que la victime ait été frappée. Mais d'après les témoignages des parents de certains élèves, leurs enfants confirment que la victime a bien reçu des coups de leurs collègues après une dispute. Peu après cet incident, des éléments de la police ont été dépêchés sur les lieux afin de sécuriser les bâtiments. Selon l'ONG de défense des droits de l'homme au CDH de Mouenéditou, la famille de l'auteur du crime est en fuite par crainte de représailles. Quant à la famille éprouvée, les parents plaident pour leur dédommagement et attendent l'aboutissement des enquêtes entreprises déjà au niveau du parquet afin d'établir les responsabilités. Interrogé sur la qualification des délits commis par des mineurs, Maître Kabeya Kalala, avocat et assistant à la faculté des droits de l'Université de Mbujimaï, affirme que selon la loi congolaise sur l'enfance délinquante, un mineur n'est pas pénalement responsable. Toutefois, les parents d'enfants mineurs sont civilement responsables, mais en aucune manière, d'après la loi, ne peuvent être arrêtés conformément à la disposition du Code civil livre 3. Dans ce cas présent, puisque l'incident s'est déroulé en plein cours, c'est bien l'école qui répondra civilement des actes de ce mineur.
Voilà, ça s'est passé à Mouenéditou, dans le Kassai oriental. Deux enfants, probablement, se sont bagarrés. Un, beaucoup plus âgé, a donné un coup sur la tête à un autre enfant, une petite fille aussi de 8 ans. Malheureusement, la petite fille est décédée par après à cause des coups qu'elle aurait reçus de l'enfant, de l'autre enfant beaucoup plus âgé. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Que dit le droit là-dessus? Parce qu'il faut dire que l'enfant de 12 ans l'a fait peut-être malgré lui. Hein.
D'après, toujours, Madame Ojinda, la loi congolaise n'autorise pas la détention des enfants mineurs. Et en principe, quand un enfant mineur commet une infraction, on ne doit pas lui infliger la peine de servitude pénale. Une peine privative de liberté. Et parce que, quelle que soit la gravité de l'infraction de l'enfant, les règles générales de compétence ne jouent pas en ce qui concerne la situation pour les cas des enfants. Et lorsqu'un enfant est, par exemple, auteur d'un meurtre, comme Yvon Lutumba vient de le confirmer, quand un enfant est, par exemple, auteur d'un meurtre d'un autre enfant, en principe, le parquet peut l'appréhender pour l'entendre et le transférer directement devant le juge qui doit prendre des mesures de garde, non pas pour la détention, mais aussi pour sa sécurité. On écoute Madame Ojinga.
Un enfant de 12 ans, c'est encore un mineur. Or, selon la loi du 6 décembre 1950, qui est relatif à l'enfance délinquante, un enfant de moins de 18 ans ne peut pas être poursuivi pénalement. La loi dit qu'un enfant qui a commis une infraction punissable de plus de 5 ans, mais qui n'entraîne pas la peine de mort ni la peine de sévices pénales principales, cet enfant sera confié au juge des enfants et le juge va le mettre à la disposition du gouvernement jusqu'à sa 21e année. Mais alors, le gouvernement devra le mettre dans une institution de garde, une institution de rééducation. Mais maintenant, par rapport à l'infraction qui a été commise, nous disons que ce sont des coups et blessures. C'est un coup qui a été donné, coup qui a entraîné la mort sans pour autant vouloir l'entraîner. Par rapport à l'enseignant qui était présent, quand l'enfant quitte la maison et qu'on l'envoie à l'école, il est sous la responsabilité de l'enseignant, sous la responsabilité de l'école. La responsabilité maintenant de cet enseignant ne sera pas engagée sur le plan pénal. Pourquoi? Parce que il sera civilement responsable. Mais pas directement l'ancien, mais étant donné que l'enseignant se retrouve dans une école, mais c'est cette école-là qui sera condamnée sur le plan civil à payer des dommages et intérêts à la famille de la victime.
Mm-hmm. Donc on retient une chose, c'est que quand il y a une bagarre dans une école et que bon, il y a un enfant qui subit des violences, hein, qui reçoit par exemple un coup, en ce moment-là, c'est l'école qui doit payer les pots cassés, hein, puisque là, Madame Mojinga a dit que l'école doit dédommager la famille de l'enfant qui a trouvé la mort à la suite de cette bagarre. Alors, Jolie-Laure, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter après tout ce que nous venons de suivre?
Oui, vous savez, Nicole, nous avons dit que les enfants subissent des violences sous toutes ses formes, en famille, en communauté, à l'école et dans d'autres institutions de la société. Mais pour vous dire que l'enfant est souvent aussi victime des violences faites en famille, au niveau de sa famille. Ici, nous avons aussi un témoignage qui va expliquer que chaque jour, l'enfant aussi souvent est souvent victime des violences faites en famille. On écoute.
Namola ki mabemoko na vajena nga itoza na epe mbeni Likambo ya kobesa bana Mwana wana azalaki mwana mobali na ye Mwana wana tango balandi biloko Batosi bango biloko na po kwa balie Mama zinda ba biloko agarde po sofe bango lobi na tongo Mwana wana nzoka ya bango balalaki alamukaki Anzi biloko wana alie Sa tongo bala mkabobata la biloko Bano ya mikila bandigo ni lanzala Mama kwa wala mzungu biloko izake Mwana na wangani Eh mama nga ite mama nga ite Mama wana tamata mwana wana Mwana na mbanda na ye betaye abetaye tala bambata tezwan jeta fufu na skanda nyoso abaliko beta mwana wana abuki ye kutuna loboko antukabi solo kutomona kiango mabeko kuseke mwana wana atenda kite fale pako beta mwana ndenge wana.
Voilà des exemples, il y en a beaucoup ici au Congo, des enfants qui subissent des violences en famille. Là nous venons de suivre un cas bien précis, une maman qui a vraiment cogné sa fille parce qu'elle avait mangé la nourriture d'hier. Elle avait très faim le matin et elle a mangé la nourriture d'hier. C'est pour laquelle la maman en est arrivée à la cogner avec le bâton de foufou, hein, n'est-ce pas, le malaxeur, si je ne me trompe. Ça arrive fréquemment, hein, ici au Congo. Nous espérons que vous serez nombreux à réagir parce que c'est condamnable devant la loi. Il faut réagir, il faut dénoncer cela. Réagissez au 081-070-2050. Jolie-Laure, bah, votre nouveau remercions, hein, de nous avoir présenté ce dossier aujourd'hui. Je vous en prie, Nicole.
Pour Kati Action, Nicole Ngaka et jeudi une cachane.
Maître Dominique Kamwando, nous sommes avec vous aujourd'hui à travers cette chronique qui vous est consacrée à l'ONG Avocats sans frontières pour parler justement de ces formes de violence qui existent ici au Congo, la protection des enfants victimes de violences. Vous avez suivi les exemples donnés par Jolie-Laure à travers le dossier qu'elle nous a présenté, violence de l'enfant en famille, violence des enfants entre eux, ça peut arriver lors d'une bagarre à l'école, violence des enfants en fait du travail, parce qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui subissent des violences parce qu'ils travaillent alors qu'ils ne devraient pas travailler, et du fait qu'ils sont enfants, ils sont encore mineurs. Vous êtes bien placé, hein, maître, pour nous donner suffisamment de détails aujourd'hui. Ce sont des infractions, alors, que dit la loi congolaise en rapport avec ces infractions commises vis-à-vis de l'enfant?
Merci beaucoup, Nicole. Nous nous retrouvons ici devant une situation qui présente plusieurs cas. En principe, l'enfant, de par son âge, de par sa fragilité, est présenté comme une personne vulnérable et doit être suffisamment protégé. Effectivement, il y a des textes légaux et même des conventions internationales qui consacrent cette question pour la protection de l'enfant. Effectivement, il y a aussi des mécanismes, il y a même un projet d'acte ou des textes sur la protection de la jeunesse qui est en train d'être discuté au niveau de plusieurs structures pour qu'on arrive à avoir un cadre juridique convenable pour la protection des enfants. En ce qui concerne les infractions, lorsque les personnes adultes commettent des infractions vis-à-vis des enfants, ces personnes méritent la condamnation, comme le prévoit la loi. Pour prendre les cas que nous avons suivis de la maman, là nous nous retrouvons bel et bien devant une situation des coups et blessures volontaires. La maman a frappé son enfant et est allée même jusqu'à blesser cet enfant. Cette infraction est prévue par la loi, c'est particulièrement les articles 43 et 46 du Code pénal, livre 2. Mais cette infraction est punissable d'une peine qui peut aller jusqu'à 6 mois de prison. Mais lorsqu'il y a des circonstances aggravantes, il y a des faits qui amènent à ce que l'enfant ait subi ou la personne ait subi une altération d'un organe, ait subi une déformation ou ait perdu l'usage d'un organe, à ce moment-là, il y a des circonstances aggravantes. La peine peut aller jusqu'à 2 ans et voire 5 ans de servitude pénale.
Il y a beaucoup de parents hein, qui torturent leurs enfants parce que, bon, il faut corriger l'enfant, disent-ils. Hein, il faut la redresser moins à Anna parce qu'elle est ici, trop c'est trop. Autrement dit, je dois corriger cet enfant parce qu'il commet trop de bêtises. Vous avez suivi le cas de cette femme qui en est arrivée à torturer son enfant sur le plan génital. Bon, c'est son enfant. Bon nombre disent, c'est mon enfant, j'ai le droit de faire ce que j'en veux.
Non, c'est une personne qui doit être protégée et qui est... C'est un sujet des droits qui est protégé. Même si c'est votre enfant, vous ne pouvez pas faire de lui ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas les tuer parce que c'est votre enfant. Effectivement, sur la question de la jurisprudence, consacre ce qu'on appelle le droit de correction. Mais ce droit de correction doit être proportionnel à la force de l'enfant, aux facultés de l'enfant et à la résistance de l'enfant. Lorsque un parent, on dit qu'il aime bien châtier bien, c'est sur base de ce principe que la jurisprudence a consacré les droits de correction, mais la correction doit être proportionnée. On ne peut pas aller chercher les malaxeurs dont on se sert pour préparer les foufous, la chikwang et autres, pour pouvoir punir l'enfant avec. Non,
on peut gifler l'enfant,
on peut donner une fessée. Mm. Mais lorsque l'usage de la force devient proportionné, là on voit l'intention méchante, là on voit qu'il y a l'infraction,
et on doit punir
c'est ça, par un comportement.
Il y a beaucoup qui recourent à ce genre de... Ça peut être un malaxeur, ça peut être une ceinture, la ceinture d'un pantalon, pour corriger un garçon qui n'écoute pas, un mineur qui n'écoute pas.
Mais punir un enfant ne signifie pas nécessairement recourir aux actes de violence. Vous savez que, par exemple, enfermer un enfant dans une pièce et lui interdire de jouer pendant toute une journée, c'est une correction qui a parfois plus d'impact sur l'enfant que le recours à la violence. La violence doit être interdite. La violence est interdite par la loi. Et lorsque les parents usent de la violence dans des cas extrêmes, ils doivent tenir compte de la proportionnalité. Jusqu'à quel niveau on peut aller. Mais lorsque les parents vont au-delà, même si ce sont les parents, et pourtant ce sont eux qui doivent protéger l'enfant, qui sont les premiers responsables de l'enfant, dans ces cas-là, on voit parfois une certaine intention méchante et il y a disproportion des forces utilisées. À ce moment-là, on peut dire que les éléments de l'infraction sont réunis et on peut sanctionner.
Mmh. Vous invitons à réagir, hein, auditeurs de Radio Capi, vous qui nous suivez à travers le pays et même à l'extérieur de la RDC, au-delà de la RDC. N'hésitez pas à intervenir au 081 070 2050, puisqu'aujourd'hui nous parlons de la protection des enfants victimes de violences. Il y en a beaucoup ici qui sont victimes de violences. Bon nombre de parents ne savent pas qu'ils commettent des violences, peut-être sur leurs enfants. Ils ont l'impression de jouer leur rôle pleinement, de corriger leur enfant pour qu'ils aillent de l'avant. Et pourtant, ils commettent des infractions. Vous avez dit 6 mois, ça peut aller jusqu'à 6 mois.
6 mois.
Et même au-delà,
même
2 ans.
Même au-delà, lorsqu'il y a des circonstances aggravantes, lorsque, par exemple, à l'usage de la violence, on est arrivé, par exemple, à fracturer l'enfant, à ce qu'un membre de son corps ait des problèmes, à ce que l'enfant puisse perdre l'usage d'un organe, à ce moment-là, lorsque ses membres ou ses organes sont altérés, à ce moment-là, la peine devient plus grave. Il y a des circonstances aggravantes.
Mm-hmm. Vous avez suivi tout à l'heure les témoignages. Nous avons eu le premier témoignage d'une voisine hein, qui avait peut-être assisté à l'acte. Et puis le deuxième encore, c'était une bagarre entre deux enfants et ça a conduit à la mort. Tout à l'heure, Julie nous a précisé, et cet enfant qui a commis la mort sur son ami, hein, malgré lui, c'est l'école qui va payer les pots cassés. Normalement, ça devait être les parents, peut-être l'enfant lui-même.
En principe, en matière de responsabilité, on consacre le principe de la responsabilité individuelle. Mais la loi prévoit des cas de responsabilité pour fait d'autrui. C'est prévu par les articles 260, 261, 262 du Code civil, livre 3. Dans le cas d'espèce, effectivement, lorsque les enfants mineurs causent des actes qui causent préjudice à autrui, à des tierces personnes, ce sont les parents qui sont responsables. Mais il y a une limitation. Lorsque ces faits arrivent, pendant que les enfants sont à l'école, il y a là ce qu'on appelle la responsabilité de l'instituteur de l'école qui est engagé parce que pendant que les enfants sont à l'école, ils sont censés être sous l'autorité et la responsabilité de l'école et non des parents qui sont restés en famille ou qui se retrouvent ailleurs.
Oui,
ils ne peuvent pas à ce moment-là faire valoir leurs prérogatives de surveillance et d'encadrement de l'enfant. Et c'est pour cette raison que la responsabilité de l'école est engagée.
Et là, pour ce cas-là, l'école devrait indemniser les parents de l'autre enfant. La solution est trouvée en fonction des moyens financiers.
En principe, au niveau de la réparation, on détermine les dommages en fonction du préjudice subi et non en fonction des moyens. C'est-à-dire que le juge va apprécier quel est le préjudice subi par les parents du fait de la perte ou du décès d'un enfant et déterminer une indemnité conséquente.
Mm-hmm. Et ça peut aller jusqu'à combien?
Bon, ça dépend. Les juges apprécient en équité et selon sa confiance. Ici, je ne suis pas juge. Ça dépend d'une situation à une autre. Ça dépend de l'âge de l'enfant et plusieurs paramètres entre
en ligne de compte. Dominique, nous savons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui subissent des violences. Malgré eux, nous parlons par exemple du travail de l'enfant. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui travaillent, c'est une forme de violence. Alors qu'il est mineur, il ne devrait pas travailler. Est-ce que ça aussi c'est condamnable devant la loi, prenant le cas des enfants qui travaillent dans les mines aujourd'hui?
En principe, en ce qui concerne le travail de l'enfant, la loi dit que les enfants de moins de 18 ans, en principe, ne peuvent pas engager leur service. Mais il y a une restriction qui est laissée pour les enfants qui ont déjà atteint 15 ans. Cela est dû à la situation conjoncturelle, sociale et économique qui peut faire que pour parvenir à ce que les enfants aient des moyens pour vivre au regard de la situation de l'extrême pauvreté dans laquelle certaines familles se retrouvent, on puisse autoriser le travail des enfants qui ont déjà atteint 15 ans et plus, c'est-à-dire des enfants qui n'ont pas encore atteint 18 ans, qui sont
dans cette marge. Il y a des enfants qui travaillent à 8 ans, 9 ans, voire même un peu moins dans les mines.
Et pour ces cas-là, il y a des travaux précis, des travaux légers que les enfants doivent faire.
Qu'est-ce qu'on peut faire par travaux légers, Maître Dominique?
Par exemple, dans une mine, on ne peut pas trouver des travaux légers pour les enfants. En principe, les travaux des mines, ce sont des travaux qui sont réservés aux adultes. Les travaux des mines sont réservés aux adultes. Lorsqu'un enfant est utilisé dans ces conditions-là, il s'agit de l'exploitation et l'employeur ou la personne qui utilise l'enfant doit être cité ou
assigné devant la justice. Vous n'ignorez pas qu'aujourd'hui au Congo, il y a bon nombre d'enfants qui travaillent dans les mines, dans le Katanga, dans le Kasai, et le droit, je crois que la justice congolaise est au courant de cela, parce que ça se fait au vu aussi de tout le monde.
On doit faire la part des choses. La justice peut être au courant, mais les juges ne statuent que sur un dossier qu'on lui amène et pour lequel il est saisi. Les juges ne peuvent pas se saisir d'office d'un dossier. Mais lorsque certains faits constituent, par exemple, des infractions à la législation pénale, à la législation du travail, lorsque l'officier du ministère public est informé, il peut se saisir, instruire et traduire les concernés devant la justice.
Il faut qu'il y ait une personne qui porte plainte.
Effectivement, pour que l'information arrive correctement à la justice. Ou, en plus de cela, nous avons une institution, l'inspection du travail, qui est censée ou qui a les prérogatives de contrôler et de veiller au respect de la législation en matière de travail. Lorsque des faits comme ça sont remarquer. L'inspecteur du travail peut faire son procès verbal et l'envoyer au parquet. Mais il faut que l'inspecteur du travail, l'inspecteur de travail dépose ses rapports au parquet, comme ça le parquet peut ouvrir des dossiers et poursuivre les personnes qui violent la loi.
Bon, vous dites que c'est à l'avantage des parents, c'est aussi à l'avantage des enfants, parce que ça permet aux parents de vivre, et des enfants, ça leur permet d'avoir des habits, d'avoir un peu d'argent de poche, raison pour laquelle on laisse faire.
C'est pour cela qu'on a tenu en disant qu'à un certain âge, l'enfant peut travailler, mais il y a des travaux qu'il doit faire. Il y a des travaux qu'il peut faire. On ne peut pas amener, parce que l'enfant va gagner de l'argent, lui amener à faire des travaux qui vont faire que demain, il ne puisse pas croître dans l'harmonie, qu'il ait des problèmes dans sa croissance et sur les plans psychiques. Parce que les travaux lourds traumatisent l'enfant. Mais ne permettent pas à l'enfant de bien s'épanouir et de grandir convenablement.
Et c'est condamnable, surtout devant la loi.
Effectivement, la loi les condamne.
Mais jusque-là, on n'a jamais condamné le travail des enfants ici au Congo. Hein. Donc c'est que la loi n'existe pas. La justice congolaise ne s'applique pas à ce type de violence faite à l'enfant.
La loi existe. La loi existe. Ce que nous devons faire, c'est que nous devons amener à la responsabilité de tous nos compatriotes. C'est-à-dire que lorsqu'ils se rendent compte qu'il y a pareil comportement qui est commis par tel ou tel employeur, les dénoncer au parquet, et nous demandons aussi aux officiers du ministère public de prendre leurs responsabilités au sérieux pour que lorsque pareils faits sont portés à leur connaissance, qu'ils ne puissent pas lésiner sur le moyen, qu'ils puissent agir directement.
Maître Dominique, nous connaissons beaucoup d'histoires à propos des enfants. Par exemple, on a appris que dans certains pays, aujourd'hui, si un parent tape sur l'enfant, directement, l'enfant va accuser dans un tribunal et ses parents risquent de payer des amendes. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette situation dans certains pays.
On entend parler de ça, effectivement.
Alors, ça veut dire que les parents ne peuvent plus battre leurs enfants, ils n'ont plus le droit de porter la main sur les enfants.
Les actes de violence, en principe, ne sont pas des actes recommandés. On dit que les parents peuvent jouir d'un droit de correction vis-à-vis de l'enfant. Mais ce qu'on doit faire, attirer plus d'attention, c'est que ces actes doivent être proportionnés par rapport à la fragilité de l'enfant et à la vulnérabilité de l'enfant. On ne peut pas utiliser des forces extrêmes pour corriger un enfant. Là, on voit l'intention méchante et pareil comportement est punissable. Lorsqu'un parent donne une fessée ou deux fessées à son enfant pour le corriger, mais pour cela, on ne peut pas le poursuivre.
Alors, on a aussi appris des histoires du genre, un enfant, un petit voleur, il vole beaucoup d'argent, alors les parents en avaient tellement marre, qu'un jour, le papa se décide de brûler les mains des enfants qui volent l'argent.
Ça c'est punissable. Un parent qui commet tel acte est punissable, sa place est en prison. On doit les dénoncer, on doit les poursuivre et les condamner. Il y a plusieurs manières de corriger l'enfant.
Il semble que les parents en avaient marre. C'était un petit voleur qui vole tous les jours. Les parents se décident un jour à brûler les mains de l'enfant.
Les parents sont même en train de reculer devant leurs responsabilités. Ce sont des actes qu'on ne peut pas encourager.
Pour un tel cas, les parents peuvent écoper de combien de jours en prison?
En principe, ce sont des actes de violence. À cause de ces actes, l'enfant a perdu l'usage complet de ses mains et ça peut aller jusqu'à 3, 4, voire même 5 ans de prison selon les circonstances.
Mais comment expliquer que jusque-là, Maître Dominique, à moins que vous puissiez nous changer d'avis, mais jusque-là, on n'a jamais condamné un parent qui aurait battu son enfant, qui l'aurait torturé? En tout cas, on ne le connaît pas, hein. Il n'y a jamais ce type de condamnation.
Il faut que quelqu'un aille porter plainte au tribunal d'abord.
Il faut peut-être dire que, à partir de notre mentalité, notre culture, pareil fait n'est pas encore porté à la connaissance du parquet ou n'est pas encore porté à l'appréciation du tribunal. Parce que pour qu'on arrive à la poursuite et à la condamnation, il faut que les faits soient portés à la connaissance du parquet qui instruit, qui amène jusqu'à saisir les tribunaux, ou que les faits soient portés directement devant les tribunaux, que les tribunaux soient saisis, que l'on cite ses parents devant les tribunaux. Et dans la plupart des cas, les gens se résignent, disent non, c'est leur problème, c'est le problème de sa famille, moi je ne peux pas m'y gérer.
Alors qu'ailleurs dans le monde, on n'hésite pas à le faire.
Ce qu'on doit faire, c'est que quand il y a
des actes comme ça, même si on n'est pas bien placé pour pouvoir citer les parents devant les tribunaux, ne fût-ce que dénoncer pareil acte devant le parquet. On peut même dénoncer et requérir l'anonymat.
Donc, et les voisins peuvent faire ça.
Effectivement, tout le monde a le devoir de dénoncer les faits infractionnels qui se commettent.
Mais ailleurs dans le monde, Maître Dominique, vous n'allez pas nous contredire. Il y a des assistantes sociales, au moindre fait, informées. Bon, vous verrez une assistante sociale débarquer chez vous, vous avez torturé votre enfant, vous avez frappé votre enfant, on vous a vu, on vient carrément vous saisir vos enfants mineurs, et c'est fini. Mais ici, Maître, il n'y a pas d'assistante sociale.
J'espère que les autorités du pays nous suivre et j'espère qu'au niveau du ministère des Affaires sociales, il y a ces structures prévues, ne fût-ce que sur papier, mais qui ne sont pas fonctionnelles. Et il faudra qu'on puisse les redynamiser et qu'on puisse les mettre à l'œuvre pour que ces personnes puissent faire leur travail dans le cadre de l'harmonie et la protection de la famille.
Par ailleurs, on n'arrache pas les enfants à leurs parents et si. Du fait déjà qu'on a des problèmes avec tous ces enfants qu'on retrouve aujourd'hui dans les rues de Kinshasa et ailleurs au Congo, bon, on n'arrache pas les enfants à leurs parents parce qu'un parent aurait porté la main sur son enfant. C'est du jamais vu au Congo.
C'est du jamais vu, peut-être qu'on n'a pas encore vécu ces cas-là où on ne les connaît pas, mais la loi les prévoit. La loi prévoit ce qu'on appelle la déchéance de l'autorité parentale. Lorsque un parent se méconduit, ne donne pas de bons exemples à son pour l'éducation et la croissance de ses enfants. Lorsqu'un parent use de la violence extrême vis-à-vis des enfants, lorsqu'un parent n'use pas correctement de sa responsabilité en tant qu'autorité parentale, en tant qu'autorité de la famille, la loi prévoit qu'on peut lui enlever, lui prendre des enfants, les confier à une autre personne de la famille ou à une autre structure, ou alors on peut les déchoir. Donc c'est ce qu'on appelle la déchéance de l'autorité parentale. La loi les prévoit.
Mais il n'y a aucune organisation pour ça.
Il faut que la justice soit saisie pour que la justice puisse se prononcer. Mais dans la plupart des cas, au regard de notre mentalité et de notre culture, les personnes, même les membres des familles, même les amis proches des familles, n'arrivent pas à porter ces faits à la connaissance de la justice.
Alors, Maître Dominique, on a appris par exemple, prenons le cas d'un enfant, un fils d'un militaire, pendant que ses parents n'étaient pas là, il jouait avec son ami, il prend l'arme de son père, le pistolet, il croyait que c'était un jouet, et puis voilà, un coup est parti et l'autre enfant décède. Alors, qu'est-ce qui va arriver?
Effectivement, dans une situation pareille, si l'enfant a moins de 16 ans, c'est-à-dire l'enfant ne peut pas engager sa responsabilité pénale, dans ces cas, c'est le parent qui est condamnable. Il est condamnable, non pas pénalement, parce que ce n'est, la responsabilité pénale est individuelle, parce que ce n'est pas lui qui a posé l'acte, mais le parent va répondre en tant que civilement responsable. On peut le condamner sur le plan civil pour dédommager la famille qui a perdu l'enfant, c'est-à-dire que le parent n'a pas bien encadré son enfant. Le parent qui garde une arme à la maison n'a pas dit à l'enfant qui jouait avec une arme, c'est dangereux, et il a laissé l'arme à la portée de l'enfant. Ça, c'est une négligence qui est condamnable.
Mm-hmm. On va voir comment les choses vont évoluer dans les jours à venir au Congo, dans les années à venir, parce que tant qu'il n'existe aucune organisation pour mettre cet enfant-là en protection, certainement qu'il y aura toujours des faits, des infractions qui seront commises, ça et là, au Congo. Nous parlons de violences sous toutes ses formes vis-à-vis de l'enfant. Nous avons cité par exemple les violences en famille. Nous avons parlé également des violences entre les enfants, des bagarres par exemple. Et nous avons également parlé du travail des enfants qui est une autre forme de violence, Maître Dominique. Mais jusque-là, il n'y a aucune de ces infractions qui n'a été punie devant la loi. On verra dans les jours à venir si réellement les Congolais apprendront à dénoncer ces faits, n'est-ce pas?
Merci. Les infractions sont prévues par la loi et la plupart d'actes qui causent préjudice à la croissance, à l'harmonie des enfants, sont interdits. Il faut maintenant que les personnes qui jouent le rôle de surveillance puissent effectivement prendre à cœur leurs prérogatives et faire leur travail avec conscience.
Affaire à suivre.
Merci, Nicole.